Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nouveau rendez-vous avec Corinne Morel d'Arleux, bonjour.
Bonjour.
C'est un mandat radiophonique, on le fait depuis le début de cette année presque. Là, c'est l'occasion de parler de cette session plénière du jeudi 22 septembre, la dernière ou la nouvelle après les vacances d'été. Une session difficile, vous avez terminé très tard, j'ai appris. Alors on va rentrer tout de suite peut-être dans le vif du sujet et quelque chose qui a marqué un peu les esprits parce que c'est passé partout, surtout dans des réseaux dits alternatifs et dans le DIWA par exemple. 3 millions ont été votés pour la Fédération régionale de chasse. Ça a été le plus long débat de cette session.
Oui, en tout cas, sans doute celui qui a fait couler le plus d'encre, parce que ça a été effectivement une grosse surprise. Et c'est surtout un gros changement de pied pour les politiques régionales sur tout ce qui est protection de la nature, éducation à l'environnement. Puisque jusqu'ici, tout ce qu'on avait eu en la matière, c'était plutôt des réductions de subventions, voire des coupes franches. C'est le cas, par exemple, pour le réseau Graines, qui s'occupe d'éducation à l'environnement depuis des décennies et qui a vu sa subvention de 276 000 euros passer à zéro. Donc on se demandait un petit peu ce qui allait se passer pour la suite et puis là on a eu la réponse. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à cette session du 22 septembre. La bonne nouvelle, c'est que le montant global alloué à l'éducation et la défense de l'environnement a été augmenté. La mauvaise, c'est qu'il n'est plus attribué qu'à un seul acteur, la Fédération régionale de la chasse. Jusqu'ici, il y avait une convention tripartite qui permettait d'avoir une diversité d'acteurs autour de la table et qu'il y ait à la fois la LPO, donc la Ligue protectrice des oiseaux, la FRAPNA qui regroupe les associations de défense de l'environnement et la Fédération régionale de la chasse, ce qui permettait d'avoir des acteurs variés qui ont des compétences diverses sur le sujet. Et puis là, la subvention de la Fédération régionale de la chasse, elle est tout simplement multipliée par 40 alors que les autres sont réduite à néant. Et donc, on n'a plus qu'un seul acteur qui va être en charge de cette compétence.
Voilà. La question qui brûle les lèvres, c'est quoi l'éducation à l'environnement de la Fédération régionale de chasse ?
Alors là, dans la convention qui est passée avec eux, ils sont en charge d'actions de sensibilisation auprès des jeunes, d'organisations, de montrer ce que c'est qu'une partie de chasse. Et puis, ils ont aussi des actions de régulation de certaines espèces nuisibles ou invasives. On le sait ici dans le DIWA sur les sangliers. Et surtout, ce qui est très pénible, une fois de plus, au-delà du fond, c'est la forme, c'est la manière dont Laurent Wauquiez a communiqué sur cette décision, une fois de plus, avant même qu'on puisse en débattre en session, et en montant ce qu'il a appelé les bobos écolos des villes contre les chasseurs qui seraient garants de la ruralité. Or, moi, je refuse de faire cette distinction, c'est-à-dire que, en plus, en habitant dans le DIWA, on a une vision évidemment de la chasse qui est probablement plus nuancée que celle de certains écolos radicaux qui voient pas ça au quotidien et qui n'ont pas cette expérience-là. Et je refuse d'opposer les écolos et les chasseurs. Et faire ça, une fois de plus, c'est attiser les tensions, alors qu'on a besoin que tout le monde travaille ensemble sur ces questions d'environnement. Mais pour que tout le monde travaille ensemble, il ne s'agit pas de donner zéro aux associations et 3 millions à la Fédération régionale de la chasse. Et je regrette que, une fois de plus, décidément, Laurent Wauquiez semble avoir beaucoup de problèmes avec la diversité sous toutes ses formes, qu'on aille vers de l'unilatéral. On a déjà connu ça sur les réseaux d'accompagnement à l'agriculture paysanne et bio, avec le fléchage de toutes les subventions vers les chambres d'agriculture. Maintenant, c'est sur l'environnement où le fléchage se fait vers la Fédération régionale de la chasse, de manière voilà, très unilatéral et en déniant la richesse de cette diversité d'acteurs. Et je trouve ça voilà, grave, très inquiétant pour la suite. Et en plus, très honnêtement, je ne suis pas sûre que la Fédération régionale de la chasse possède les moyens et les compétences de mener à bien toutes les missions qui sont comprises dans ces 3 millions d'euros. Donc j'aurais préféré qu'on reste sur quelque chose de multipartite et qu'on continue à s'appuyer sur les réseaux qui, depuis des années et des années, assument ce travail et de manière irréprochable.
C'est des votes assez tranchés là, sur des décisions comme ça au niveau de la région. La majorité y va d'un seul homme
De moins en moins. Au sein de la majorité de Laurent Wauquiez, on voit de plus en plus apparaître effectivement des fêlures, et notamment du côté des centristes, de l'UDI et du MoDem, de plus en plus d'élus ne votent plus. Les yeux fermés, et le doigt sur la couture du pantalon. Donc il y a des voix qui commencent à s'élever timidement. On voit dans les votes, alors nous on n'a pas le détail nominatif des votes, puisque maintenant on est sur des boîtiers électroniques, donc on ne sait pas qui vote quoi, on a uniquement le résultat global des votes. Mais enfin on voit bien que sur certains sujets, et celui-là en fait partie, Laurent Wauquiez ne fait pas le plein des voix de sa majorité. Donc il y a quand même des gens aussi au sein de sa majorité, notamment du côté du centre, qui n'approuvent pas certaines de ses décisions.
La LPO qu'on reçoit assez régulièrement dans ce studio, eh bien, ce sera une question qu'on va leur poser. Comment vont-ils faire, notamment ici, hein, pour citer juste quelques espaces, le Marais des Bouligons, également la grotte qui est vers, je ne me rappelle plus son nom, dans la vallée de la Roanne, les chauves-souris qui vivent dans la cathédrale de Die. Voilà des choses qui sont aujourd'hui veillées, surveillées par ces gens-là. Il n'est même pas question de chasser ou de réguler, mais en tout cas de voir si elles sont encore en activité. On va perdre ce genre de protection là, c'est bien de ça dont on parle. Bien, alors on va passer à un autre sujet, celui tout aussi brûlant de l'accueil des réfugiés dans la région. On a l'exemple du CAO de Alès, ici dans notre secteur, un château principalement qui sera dédié à l'accueil des réfugiés. Ça fait beaucoup de bruit. Et à la région alors?
Alors à la région aussi, ça fait beaucoup de bruit et c'est vrai que sur ce sujet, la session du 22 septembre a été particulièrement houleuse et tendue et éprouvante, je dois dire, parce que on a assisté à une espèce de course de vitesse dans les déclarations des uns et des autres entre les Républicains et le Front National, puisque le Front National a lancé une motion qu'ils essayent de faire signer dans toutes les communes pour demander aux communes de ne pas accueillir les migrants. À la région, Laurent Wauquiez a lancé une pétition, lui aussi, pour appeler à soutenir les maires qui ne voudraient pas accueillir ces réfugiés qui viennent donc du camp de Calais. Et puis des propos très durs, puisque on a vu refleurir sur les bancs du Front National des insultes nous traitant, nous, élus du rassemblement, de Khmer Vert. On a entendu parler à propos des chasseurs Laurent Wauquiez de fatwa. Voilà des termes qui sont à manier avec précaution en ce moment. Visiblement, eux ne s'encombrent pas de ces précautions. Et puis pendant la session, un vœu avait été déposé par la majorité de Laurent Wauquiez sur ce sujet de l'accueil des réfugiés pour demander, alors dans des termes plus policés cette fois, mais demander davantage de concertation au gouvernement avant que les migrants puissent être accueillis dans les différentes communes de la région. Et au moment de ce vœu, évidemment, les bancs du Front National se sont déchaînés. Les insultes, comme je le disais, ont fusé. On a même entendu des élus du Front National accuser les communistes d'avoir collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même particulièrement grave comme accusation. Et puis, à un moment donné, les élus du Front National se sont tout simplement levés et se sont mis à brandir des pancartes et des banderoles pour des communes sans migrants. Ceci est interdit par le règlement de notre assemblée. C'est même interdit pour les gens qui assistent dans le public. Donc c'est évidemment a fortiori interdit pour les élus qui siègent, et ce pour respecter un minimum de tenue de nos débats dans l'hémicycle. Et malheureusement, Laurent Wauquiez, qui en tant que président de région est responsable de la bonne tenue de ces assemblées, a mis pas loin de 10 minutes avant de faire appliquer le règlement. Donc on a eu une session particulièrement dure. Moi, je suis intervenue sur ce vœu pour rappeler un certain nombre de choses qu'on avait rappelées également par une lettre ouverte signée des élus régionaux du parti de gauche. D'abord, contrairement à ce qui est dit, on est évidemment très loin d'une invasion ou de la reproduction de jungles de Calais un peu partout sur le territoire, pour plusieurs raisons. D'abord, sur notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte près de 8 millions d'habitants, il s'agit seulement de 1784 réfugiés.
Est-ce qu'on peut faire un tout petit retour? Comment s'est décidé qu'on a voilà, ce nombre-là de réfugiés? Par qui?
Alors, c'est le gouvernement, oui, en fait, qui est responsable, hein, qui est en charge de cette question, qui a établi la répartition, donc un nombre de réfugiés à accueillir dans chaque région.
Voilà, tout le monde est concerné.
Voilà, tout le monde est concerné. Et le gouvernement a demandé à ses représentants locaux, c'est-à-dire les préfets, de repérer les communes susceptibles d'accueillir des réfugiés. Donc, dans notre région, par exemple, donc c'est 1784, ce qui veut dire que, pour reprendre le cas d'Alex, qui n'est pas très loin d'ici, dans la Drôme, c'est une cinquantaine de réfugiés qui doivent être accueillis dans un château qui est un bâtiment qui aujourd'hui est vacant, vide, qui pour l'instant ne sert à rien. Cet accueil se fait aux frais non pas de la commune, comme c'était sous-entendu dans le vœu déposé par la majorité de Laurent Wauquiez, mais c'est pris en charge par l'État. Et contrairement à ce que raconte Laurent Wauquiez également, il n'y a pas de circulaire qui a été envoyé par le ministère de l'Intérieur demandant au préfet de ne pas consulter les communes, mais simplement un compte-rendu de réunion qui demande qu'il y ait un premier repérage, effectivement, par les préfets, étant entendu que tout cela est sous l'autorité de l'État. Alors, arrivé là, je voudrais préciser une chose. Il ne s'agit pas de dédouaner le gouvernement de la manière, franchement, plus que maladroite, pour rester très mesuré dans mes propos, dont il a géré cette question du camp de Calais et dont il gère actuellement la répartition sur le territoire national. La manière dont c'est fait est
étonnante, hein, quand même.
Malheureusement, déplorable, ouais, et tend la perche à ce type de réaction.
Bien sûr.
Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il faut remettre les choses à leur place. Dans le cas d'Alex, c'est donc seulement une cinquantaine de migrants. C'est des hommes, des femmes, des enfants. Les 11 premiers sont arrivés, dont 3 enfants qui sont persécutés dans leur pays, il faut le rappeler, et qui en plus sont accueillis, dans le cas du CAO d'Alex, pour une durée de quelques semaines. Donc ce n'est pas une résidence permanente. Le temps de souffler un peu, de se remettre humainement et de monter les dossiers de demande d'asile. Donc on est très loin du barouf qui est fait notamment par le Front National, qui s'est saisi malheureusement de ce sujet pour en faire un point de fixation, qui a organisé une manifestation de ses élus, ouais, ouais, du Front National à Alex, et qui est en train d'enfumer les esprits en surfant, comme d'habitude, sur les peurs des uns et des autres. Donc il est évidemment très important de remettre les choses à leur juste place et de rappeler que dans plein de communes de notre région, il y a eu des accueils de réfugiés et que les choses se passent très bien, que c'est de l'avis de tous ceux qui l'ont expérimenté une richesse pour ces communes et qu'aucun incident n'a été à déplorer. Contrairement à ce qu'affirment là aussi les élus du Front National qui avaient déposé plusieurs amendements particulièrement ignobles à l'occasion de cette session à la région de jeudi dernier, qu'ils ont d'ailleurs assez curieusement retirés en séance. C'est-à-dire que ces amendements ont été retirés par le Front National, n'ont pas été présentés ni soumis au vote, ce qui n'est pas dans les habitudes du Front National.
Donc vous avez pu les lire quand même.
On a pu les lire. Ah ouais. Je me suis d'ailleurs permis même de les communiquer au public via mon blog. Notamment un, par exemple, qui proposait de verser des aides spécifiques aux communes accueillant ces réfugiés en vue des dégradations qui seraient nécessairement commises par ces réfugiés sur les biens communaux. Ce qui est quand même juste une aberration, c'est-à-dire qu'on avait Laurent Wauquiez déjà qui assimile et qui confond réfugiés, migrants, sans-papiers, clandestins, voilà. Et là, le Front National qui va un cran plus loin en les assimilant à des casseurs systématiques. Bon, ces amendements ont été retirés de manière assez curieuse. au même moment où on apprenait que Marine Le Pen allait lancer sa campagne des présidentielles au mois de février à Lyon, à côté de Christophe Boudot, qui est un élu régional du Front National. Alors, est-ce qu'ils ont reçu des consignes du National d'incarner un petit peu mieux la France apaisée, qui, je le rappelle, est le slogan de Marine Le Pen, ce qui prêterait à sourire si ça ne prêtait pas à pleurer quand on voit l'ambiance que ces élus mettent dans l'hémicycle. Bon, voilà, je n'ai pas la raison. Les journalistes que j'ai interrogés en session n'en ont pas eu non plus. Mais enfin, tout ça est quand même très curieux et en tout cas particulièrement indigne de la part d'élus qui siègent dans un hémicycle. Moi, quand je suis intervenue dans un tintamarre tel que je n'ai même pas entendu Laurent Wauquiez me donner la parole, et sous les huées du Front National, sur un sujet comme celui-ci, je dois dire que cela est particulièrement honteux et scandaleux.
Tout est filmé, il y a donc possibilité de recours pour des manquements au règlement. Soyons un peu procéduriers, tiens, tout d'un coup.
Sur des manquements au règlement intérieur, malheureusement, on n'a pas de délai pour que le président de région fasse appliquer le règlement. Les élus du Front National ont fini par rengainer leur pancarte et je ne crois pas qu'un tribunal administratif, malheureusement, puisse faire annuler quoi que ce soit sur mauvais comportement. C'est d'ailleurs bien dommage parce que plus d'une fois, ces élus se sont singularisés par leur comportement particulièrement exécrable et indigne dans nos sessions régionales.
Voilà, ça rappelle un peu le bordel du mercredi à l'Assemblée nationale que tout le monde filme, bien sûr, et c'en est parfois risible, et ça ne fait pas avancer grand-chose. Ce qu'on peut rappeler, donc, c'est que la région Rhône-Alpes soutiendra, a priori, les gens qui ne voudront pas accueillir des réfugiés. Rhône-Alpes Auvergne, hein, je précise, avec ce vœu que Laurent Wauquiez a proposé. Pour conclure peut-être avec Alès et d'autres communes qui ont été choisies comme ça pour accueillir des réfugiés, est-ce que ça s'est fait contre aussi des municipalités? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pu s'exprimer aussi sur le sujet et dire, mais en fait, nous, en fait, on n'est pas du tout dérangés?
Alors, bon, à Alex, pour reprendre ce cas particulier, le maire d'Alex a déclaré effectivement qu'il n'était pas favorable à cet accueil et a proposé un référendum. Donc, ce référendum, bon, qui n'a pas vraiment de valeur légale par ailleurs, mais se tiendra le 2 octobre, dimanche prochain, avec une situation qui est particulièrement inextricable, puisque les premiers réfugiés sont arrivés. Voilà, en fonction du résultat du référendum, des discussions devront avoir lieu avec le préfet. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est surtout que tous ceux qui sont en responsabilité politique, qui sont élus et qui s'amusent à aller jouer avec le feu en attisant les tensions et en soufflant sur les braises à Alex, jouent là un très mauvais rôle et prennent des responsabilités politiques importantes sur l'aggravation des tensions et de la situation. Ils prennent une responsabilité par rapport à la suite des événements, là où, honnêtement, je pense que les choses auraient pu se passer de manière pacifiée, en laissant le maire d'Alex et le préfet de la Drôme discuter et en présentant des arguments d'apaisement à la population, si tant est qu'il y avait des inquiétudes, ce qui peut arriver, parce que malheureusement, vu le discours qu'on nous sert dans les médias dominants, que les gens aient peur n'est pas illégitime ou surprenant. Par contre, des arguments pour apaiser ces peurs, il y en a, et malheureusement, ce n'est pas ceux-là qui ont été mis en avant.
Et on imagine que quand on est maire, on a quand même toute la marge de manœuvre pour gérer cela suffisamment bien. On ne parle pas non plus d'un petit village perdu du Diois. On passe à un autre sujet, Corinne Morel-Darleux, celui de l'étoile de Veynes. L'étoile de Veynes, c'est un mot sympathique pour parler de cet énorme nœud ferroviaire qui permet à la Drôme, à l'Isère, de se rallier à la région PACA. On est concerné évidemment sur la ligne Valence-Veynes, appelé aussi le Briançonnais, hein, qui tourne lui toujours. Il y a tout le temps, on parle de fermer ces lignes-là. Il y en a une autre qui part en direction de Grenoble, hein, c'est la ligne de Vifalus, pareil. Donc là, il y a eu des fuites, c'est donc de là-dessus qu'on s'appuie, et ça débat aussi à la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un document, effectivement, qui a fuité de la région Auvergne-Rhône-Alpes vers PACA. Donc l'information...
Ils sont en lien forcément sur cette ligne.
Ouais. Voilà, l'information est sortie d'un élu des Hautes-Alpes. Et dans ce document que j'ai pu consulter, il y a plusieurs hypothèses. Et dans un des scénarios figure la fermeture immédiate du tronçon entre Vif et Luz-la-Croix-Haute, donc sur cette ligne des Alpes, et puis figure sur notre ligne, cette ligne de dit ligne de vie, une mention sous réserve, enfin de maintien sous réserve de financement de PACA. Donc moi j'ai interpellé le vice-président au transport Patrick Mignola pour lui demander d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse. Pour l'instant nous n'avons pas de démenti officiel de la part de la région et on attend évidemment avec beaucoup d'attention et d'impatience de savoir ce qu'il va en être. D'autant plus que le lieu qui était le lieu de concertation jusqu'ici avec la SNCF et Réseau Ferré de France, qui est le comité de ligne, ne s'est pas réuni depuis juin 2015. Et donc, des acteurs locaux, avec en tête le CLD du DIWA, ont décidé, puisque la région ne le fait pas, eh bien, d'auto-organiser un comité de ligne exceptionnel, un comité de ligne autogéré, qui va avoir lieu ce 28 septembre à 18h en mairie de Saillant, qui est ouvert à tous les usagers, à tous ceux qui s'intéressent à notre train du quotidien sur cette ligne entre Valence et Vennes, et puis qui fera remonter les attentes des usagers, leurs inquiétudes, sur la base aussi d'un manifeste qui a été réalisé par plusieurs CLD, dont celui du DIWA, mais aussi le CLD de Gap et puis des acteurs locaux là aussi de cette étoile de Vennes. Un manifeste pour l'étoile de Vennes que vous pouvez consulter sur le site du CLD.
Et signé,
tout à fait, que moi j'ai signé aussi bien sûr en tant que conseillère régionale, pour demander la défense et même le développement de ces lignes de TER. Voilà, donc je signale aussi, parce que j'ai eu l'occasion de relayer aussi cette initiative sur les ondes de vos confrères de France Culture lors d'une émission qui s'appelle Sur la route, qui est animée par Julie Gacon, qu'on a enregistrée dans les studios de France Bleu à Valence, que vous pouvez là aussi retrouver sur le site de France Culture, donc Sur la route d'un cheminot. Où on suit un conducteur de train sur la ligne entre Valence et Briançon et où j'interviens en plateau avec un des co-rédacteurs de ce manifeste pour l'étoile de Vennes.
Cette ligne est magnifique, en tout cas c'est ça qui doit ressortir je pense aussi de ce reportage. Pour être plus concret encore, la région a souvent, et même le département, et même en fait plus grand monde défend correctement cette ligne. Localement, on entend parler, là, très très récemment, de la communauté de communes du Pays d'Iwa qui s'engage sur le covoiturage et l'intermodalité. Les uns vont à l'encontre des autres. Comment est-ce que la région PACA, elle, envisage ce tronçon qui est finalement au bout de chez elle, comme il est au bout de notre région à nous ?
Alors, je n'ai pas d'informations directes venant de la région PACA, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'on est en bout de tronçon, certes, mais en même temps, c'est le bout de tronçon qui permet aux Briançonnais de rejoindre la ligne de TGV qui remonte à Paris. Et que jusqu'ici, on a suffisamment râlé parce que justement, les horaires étaient alignés sur les besoins des personnalités de PACA qui avaient besoin de rejoindre Paris plutôt que sur les besoins des habitants de la vallée. On a suffisamment râlé là-dessus pour savoir que ce tronçon, il est important pour ne pas enclaver le Briançonnais. Donc c'est quand même pour nous un début de garantie que la ligne reste. C'est aussi la ligne qui permet de relier Paris à un certain nombre de stations des Alpes. Mmh. On sait qu'elle est très fréquentée les week-ends d'hiver notamment. Bon, voilà, ça c'est des choses quand même qui vont plutôt dans le sens d'une garantie de maintien. Maintenant, on n'est pas à l'abri que la ligne restent, mais que des haltes voyageurs soient supprimées. C'est-à-dire qu'on ait des trains qui ne s'arrêtent pas à toutes les gares.
Ouais. Ou carrément retirer les TER même. Le Briançonnais peut toujours passer et on retire...
C'est toujours un risque, effectivement. C'est la raison pour laquelle on attend d'avoir des réponses. On a eu un début de réponse, avec l'engagement de la région de Patrick Mignola de débloquer 120 millions d'euros pour la régénération des petites lignes, mais on n'a pas le détail des petites lignes concernées ni du montant. Pas plus que nous n'avons pour l'instant la teneur des discussions qui sont en cours avec la SNCF pour le renouvellement de la convention entre la SNCF et la région, qui doit normalement intervenir au grand maximum à la fin de cette année, donc décembre 2016. Donc pour l'instant, on est un petit peu suspendu aux informations et on les attend donc avec évidemment beaucoup d'attention. Tout ça n'empêche pas, dans l'attente, de s'organiser localement pour réaffirmer notre besoin et notre soutien à ces petites lignes, à ces trains du quotidien.
Donc c'est une mobilisation citoyenne qu'il faut avoir, comme peut-être un peu toujours maintenant, de plus en plus en tout cas. Rendez-vous le 28 septembre, on a donné l'heure à Saillant.
À 18h à la mairie de Saillant.
Pour ce comité de ligne exceptionnel organisé par différents CLD. Corinne Morel-Darleux, parlons recours maintenant. Il y en a deux qui ont été posés par vous, donc par le Rassemblement.
Oui, tout à fait. On continue... là aussi sur le front juridique, puisque ça fait partie des actions que nous pouvons mener en tant qu'élus. Et donc nous avons déposé deux nouveaux recours. Un recours sur l'abandon du parc naturel régional du Haut-Allier, des gorges et sources du Haut-Allier, qui est un parc naturel régional qui a été, ça fait 5 ans que les gens concernés du coin côté Auvergne travaillaient dessus. C'est un PNR qui a été validé par tous les acteurs locaux, les communes concernées, tous les échelons, jusqu'au conseil régional d'Auvergne.
De gauche comme de droite ?
Tout à fait. Donc jusqu'au conseil régional d'Auvergne, qu'il a adopté par une délibération en commission permanente en 2015. Il manquait plus que le décret final du ministère de Ségolène Royal. Et là, Laurent Wauquiez a fait voter au mois de juillet, en session régionale, l'abandon de ce PNR. Or, a priori, la région n'a pas le pouvoir d'annuler en assemblée plénière une décision qui a déjà été validée en commission permanente d'une précédente région, la région Auvergne. Donc un recours a été déposé effectivement par notre groupe des élus du Rassemblement, porté par notre élue de Haute-Savoie, Fabienne Grébert, qui s'occupe plus particulièrement de ces questions d'environnement et de PNR, et on attend d'avoir un retour de la part du tribunal administratif sur ce recours.
Ça fait bouger que vous, ce sujet ?
Non, non, pas du tout. Il y a eu beaucoup.
Pour attendre un recours du PS, par exemple, ou des élus d'Auvergne.
Alors, je pensais plutôt à des acteurs extérieurs à notre hémicycle.
Ah oui.
Il y a eu notamment des réactions du côté de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, et puis bien sûr sur le territoire concerné, beaucoup d'acteurs sont intervenus pour dire leur indignation de voir Laurent Wauquiez revenir de cette manière sur le travail de 5 ans de territoire, de concertation, de consultation et de délibération prise en conseil municipal.
Et au niveau légal, pour vraiment qu'on comprenne, finalement, quand on est élu après un autre, on peut pas annuler les lois, on peut pas annuler les... Parce que ça se voit un petit peu quand même, entre surtout à la présidence par exemple, on inverse, on change.
On peut pas faire tout et n'importe quoi. Le président de la région a beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que nous, on parlait même sous le règne de Jean-Jacques Guérin de monarchie présidentielle. Malheureusement, voilà, c'est un peu comme à l'échelon national sous cette 5e République. Le président a des pouvoirs très étendus et trop à notre goût. Pour autant, il y a quand même encore un encadrement, effectivement, par la loi et par le Code général des collectivités territoriales. Et même en tant que monarque présidentiel, Laurent Wauquiez ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et notamment, et en tout cas, c'est nous la thèse que nous défendons auprès du tribunal administratif sur cette annulation de décision. Pour nous, il n'est pas légitime à le faire.
Et l'autre recours, il concerne l'autoroute A45, ce fameux gros débat. Alors, juste comme ça, en passant, j'ai eu l'occasion de me promener un petit peu quand même en Loire et dans ce secteur-là et autour de Lyon. Et étonnamment, y compris chez des gens auxquels je ne m'y attendais pas du tout, ils sont plutôt pour. Parce que ils disent que c'est quand même infernal et que bon, le secteur étant déjà tout pourri, ça va pas changer grand chose. C'est quand même assez rigolo ce soutien, je pense, local un peu unilatéral pour se désengorger de Lyon, quoi.
Alors là, malheureusement, c'est pareil, c'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas accès à l'ensemble des informations qui leur permettraient d'avoir un avis critique et éclairé. La communication qui a été faite sur ce projet de nouvelle autoroute a présenté les choses comme étant une solution aux embouteillages, de confort de l'automobiliste. Ce que n'a pas dit la communication officielle de la région, c'est que, bon, d'abord, il existe déjà une autre autoroute qui, elle, est gratuite. La nouvelle serait payante. Et cette autoroute existante, certes, elle doit être réaménagée. C'est-à-dire que la situation actuelle n'est pas satisfaisante en l'état. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Par contre, si vous comparez les coûts de requalification de l'autoroute actuelle, la 47, et le coût de construire une nouvelle autoroute à quelques mètres de l'existante, eh bien, il se trouve que le coût d'une nouvelle autoroute est beaucoup plus important, puisque on est, si on prend en compte toutes les infrastructures nécessaires, à un peu plus d'1 milliard d'euros, alors que la requalification de l'autoroute existante est évaluée à peu près à 700 millions d'euros. Donc on pourrait tout à fait requalifier, réaménager pour plus de confort des automobilistes l'autoroute existante à un coût moindre.
Ça, c'est, en l'élargissant par exemple.
Voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur cette nouvelle autoroute, la concession a déjà été signée en faveur de Vinci. Et ce que savent peu les gens, c'est qu'elle a été signée avec ce qu'on appelle une clause de déchéance. C'est-à-dire que si les prévisions de profit pour Vinci sont inférieures à ce qui est dans le contrat, eh bien ce sont les collectivités, la région, nous, qui allons payer le manque à gagner à Vinci.
Un mini TAFTA.
Voilà.
Un TAFTA à nous tout seul.
Exactement. Donc s'il n'y a pas assez d'automobilistes à la fin, eh bien c'est nous qui paierons les péages non consommés pour continuer à augmenter les profits de Vinci. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, on a un cas d'une autoroute comme ça en Espagne, par exemple, qui s'appelle l'AP41, où le trafic s'est révélé 30 fois inférieur à ce qui était prévu. Autant dire que si c'est le cas sur cette autoroute, on va se retrouver avec des dizaines, voire des centaines de millions de pénalités, de manques à gagner, que nous devrons, nous, payer de notre poche pour les donner à Vinci. Et sur la question du tracé, pour le coup aussi, la nouvelle autoroute, le nouveau tracé qui est prévu, passe par des terres agricoles, passe par des endroits où il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui vivent de leur travail. Mmh. Donc c'est pas tout à fait juste de dire que ça passe de toute manière par des coins tout pourris et qu'on s'en fiche, quoi. Donc voilà, en plus, parmi les opposants à ce projet d'A45, qui se sont d'ailleurs mobilisés, hein. Il y a eu une manifestation assez importante à Mornan il y a quelques jours, une dizaine de jours. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'en réalité, le désengorgement ne sera pas automatique. Parce que s'il n'y a pas une réflexion sur les arrivées côté Lyon et côté Saint-Étienne, cette autoroute va juste permettre d'aller d'un bouchon à un autre. Donc on ne règle pas tout. Voilà, il y a encore beaucoup de choses quand même à étudier sur ce projet. Et puis la dernière chose, dernier argument contre ce projet d'A45, c'est que d'abord, la région n'a pas à financer des autoroutes. Ça ne fait pas partie de ses compétences. Et pour nous, ça ne fait surtout pas partie d'aller dans le sens de réduction de la pollution de l'air, de réduction de la circulation automobile. Et on sait qu'il y a des effets rebonds, c'est-à-dire que plus vous élargissez les autoroutes, plus vous avez le risque qu'il y ait de voitures dessus et on augmente la pollution et le dérèglement climatique et tout ce qui s'ensuit. Donc pour nous, vraiment, cette décision, elle est coûteuse. Elle est inutile puisqu'il y a d'autres solutions, notamment sur la requalification de l'autoroute existante. Elle ne va pas dans le sens de l'histoire et en plus, elle ne fait pas partie des compétences régionales.
C'est donc là-dessus que vous attaquez en recours, puisqu'il faut quelque chose de légal. Pourquoi ce n'est pas la compétence de la région de fabriquer des autoroutes ?
Parce que normalement, la région intervient sur des routes dites d'intérêt régional. Et les autoroutes sont du ressort de l'État et non pas des régions. Alors après, on peut toujours jouer sur les mots et jouer sur l'intérêt régional. Mais normalement, la région n'a pas à financer des autoroutes. Et je rappelle, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant sur les TER, c'est que le budget de la région n'est pas extensible. Donc concrètement, si on met, comme c'est prévu maintenant, 132 millions d'euros sur cette autoroute, ces 132 millions d'euros qui n'iront pas ailleurs, et notamment en matière de transport, la régénération des petites lignes dont on parlait, sur les futurs contrats qui vont remplacer les CDDRA, sur tous les autres programmes de la région. C'est-à-dire que ces 132 millions, c'est des questions de priorité budgétaire, de choix politique. S'ils sont investis dans la 45, ne seront pas investis ailleurs. Donc moi, j'invite tout le monde à se poser la question aussi dans ces termes-là. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si on veut une nouvelle autoroute. La question est de savoir où est-ce qu'on juge aujourd'hui prioritaire d'affecter 132 millions d'euros d'argent public.
C'est donc dit, ce recours pour rejoindre d'autres recours d'annulation de décisions et de budget à ce point, juste pour savoir, le premier recours, il en est où ?
Alors, on n'a pas pour l'instant de nouvelles de la part du tribunal administratif, donc on est dans l'attente.
Bon, j'espère qu'un jour ça sortira. Passons sur le cas de l'entreprise Ecoplat. On en avait parlé, vous aviez proposé un vœu d'ailleurs, qui n'a pas été retenu, hein, me semble-t-il, pour que la région soutienne cette entreprise qui est basée dans le Grésivaudan. Alors, la suite de ce vœu ?
Alors, notre vœu, effectivement, n'avait pas été retenu. D'ailleurs, il n'avait pas été voté par la droite et il demandait à ce que la région exerce un droit de préemption, favorise un droit de préemption pour que les salariés puissent reprendre leur entreprise sous forme coopérative, qui était d'ailleurs aussi, pour ceux qui s'en souviennent, une promesse de la loi dite Hamon sur l'économie sociale et solidaire, puis qui finalement n'est toujours pas dans la loi. Et puis depuis, et ça c'est une bonne nouvelle, les projecteurs se sont un peu déplacés à force d'en parler sur le cas de cette entreprise Ecoplat, sur lequel il y a donc aujourd'hui un projet de reprise par les salariés qui se dépensent sans compter pour faire connaître leur lutte et pour que leur entreprise ne soit pas revendue en pièces détachées à un concurrent italien qui concrètement envisage de reprendre les machines et puis de cesser l'activité sur le site qui est basé pas très loin d'ici, hein, puisque c'est dans le Grésivaudan en Isère. Donc nous, on accompagne ces salariés et leurs projets de SCOP. On n'est pas les seuls. Il y a notamment Fakir avec François Ruffin qui s'est mis dans la partie. Et ça, c'est évidemment un renfort extrêmement précieux pour cette lutte, pour la faire connaître. Ils ont également été reçus par Jean-Luc Mélenchon. Ils sont allés faire le siège d'Emmanuel Macron à Paris devant les locaux de son nouveau mouvement. Ils ont mouillé la chemise, comme on dit, pour faire connaître leur projet et puis pour interpeller les responsables politiques et notamment au niveau ministériel. Là, la prochaine étape pour eux, et elle est très importante, c'est le 5 octobre au tribunal de commerce de Grenoble. Il y a un rassemblement de soutien d'ailleurs qui est appelé et j'invite les auditeurs qui peuvent à se rendre en soutien le 5 octobre à Grenoble pour soutenir ces salariés d'Ecoplat. Et là, ils auront le rendu de justice sur le fait soit de pouvoir reprendre eux-mêmes leur entreprise et continuer à la faire vivre, ou alors de confirmer la vente à ce concurrent italien qui prendra les machines sans reprendre les salariés et ce qui voudra dire la fin de l'activité sur le site d'Ecoplat dans le Grésivaudan. Sachant que ce site et cette activité d'Ecoplat, c'est la fabrication de barquettes en aluminium et que ce sont les derniers à fabriquer des barquettes aluminium en France. Voilà, donc quand on parle de réindustrialisation, quand on parle de relocalisation, quand on parle de maintien et de développement de l'emploi, notamment dans les zones rurales, eh ben, il faut aller jusqu'au bout et être cohérent, parce que parler de Made in France, comme le font beaucoup de responsables politiques aujourd'hui, ça ne suffit pas. Si derrière, quand il y a une possibilité de garder de l'activité effectivement locale, bah, vous ne bougez pas le petit doigt.
Donc, que fait la région ? Rien pour l'instant ?
Alors, la région vient d'annoncer, par le biais de son président, Laurent Wauquiez, qu'elle donnerait royalement 400 000 euros à Ecoplat. Alors, plusieurs remarques par rapport à ça. Hein. Bon, c'est bien. Hein.
C'est une somme.
Les salariés d'Ecoplat ne vont pas cracher sur 400 000 euros. Sauf que, d'abord, 400 000 euros pour une activité industrielle, c'est mal connaître ouais. ce qu'est l'industrie. C'est ridiculement peu, bon, hein, bien sûr.
Ça permet d'acheter une machine.
Mais enfin, c'est un geste. Malheureusement, ces 400 000 euros ne seront utiles que si les salariés d'Ecoplat sont autorisés à reprendre l'activité.
Ouais. Voilà, il n'y a pas la préemption qui garantirait.
Et ouais. La préemption n'est toujours pas là, et la région ne s'engage toujours pas dans ce sens-là. Donc c'est un geste, mais c'est un geste qui risque de ne servir à rien si l'entreprise part en Italie.
Corinne Morel-Darleux, on termine avec quelques sujets frais pour quitter un petit peu quand même cette région, notamment la venue du mouvement Négawatt à Adi, ça c'est les 14 et 15 octobre, on abreuve l'auditrice et l'auditeur de date dans cette émission.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dates et beaucoup de rendez-vous. Celui-là permet d'avoir une touche un peu plus positive, parce que c'est important de parler des luttes, mais c'est aussi important de temps en temps de parler d'alternatives pour se redonner un peu de souffle, d'espoir et d'inspiration. Et dans les alternatives qui se développent depuis plusieurs années, je crois que le travail qui est fait aujourd'hui par Négawatt sur son scénario de transition énergétique, hein, qui fait la démonstration qu'avec des économies d'énergie et un vrai plan d'investissement dans les énergies renouvelables, eh bien, en quelques années, on peut tout à la fois sortir du nucléaire et diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4, tout en créant des emplois. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant. Il se trouve que Négawatt, en plus, va sortir son nouveau scénario amélioré encore par rapport à la version précédente dans l'année qui vient, et que cette année, ils ont choisi 10 pour tenir leur université annuelle. Ce sera au centre du Martouret, donc les 14 et 15 octobre. Et je crois que ça va être un moment important pour se projeter justement dans ce que serait une vraie politique d'avenir. Il y a notamment un atelier où je serai en tant que participante, hein, qui va s'attacher à la régionalisation du scénario Négawatt. Donc voir comment est-ce que une région peut mettre en œuvre ce scénario à l'échelle de son territoire. Donc évidemment, je vais aller écouter tout ça avec beaucoup d'intérêt.
Ce qui n'est pas mince, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu le poumon du nucléaire. Hein. En France, c'est là où il y en a le plus. Alors, bon boulot. Rendez-vous à ces rencontres Négawatt. Moi, je pense que la radio va y faire un sévère tour les 14 et 15 octobre au Martouret. Et puis, vous vouliez nous citer quelques belles initiatives là dans le coin, notamment l'usine vivante. Et puis 1080, alors je ne sais pas, 1083, pardon, je ne sais pas ce que c'est.
Mais c'est toujours dans l'idée, effectivement, de donner à voir et de soutenir aussi ce qui se fait localement d'intéressant, de novateur, et puis d'un petit plus porteur d'avenir que ce qui se fait à la tête de la région en ce moment. L'usine vivante à Cray, c'est un tiers-lieu qui s'est monté avec plein d'occupants qui ont tous des activités professionnelles, associatives, et qui se sont regroupés dans ce bâtiment qui est une ancienne usine, qui sont en train de redonner vie à cette ancienne usine. Et ils ont besoin, là aussi, de se faire connaître, ils ont besoin de soutien. Et donc, j'invite tout le monde à aller regarder sur Internet leur site, et puis éventuellement de passer aussi leur faire un petit signe quand ils vont à Cray, parce que c'est une initiative qui me semble vraiment aller dans le bon sens. Et puis 1083, c'est une entreprise qui est basée à Romans-sur-Isère, donc toujours dans le département, mais un petit peu plus haut, que j'ai rencontré la semaine dernière, puisqu'ils organisaient une visite de leur atelier qui est actuellement en lice pour reprendre un site à Romans-sur-Isère qui est le site jour d'an. Donc moi, je fais partie des gens qui soutiennent leur candidature pour cette reprise, parce que c'est une entreprise qui est portée par une jeune équipe passionnée qui fait du jean, notamment, pour le coup made in France, mais vraiment made in France, c'est-à-dire avec une cohérence de bout en bout sur la question de la relocalisation de l'activité. Alors pourquoi 1083 ? Parce que c'est la distance maximum entre deux villes en France, c'est la plus grande diagonale française, elle fait 1083 km. Et ils sont partis du constat que les jeans qu'on a aujourd'hui font le tour du monde avant d'être enfilés ici, et qu'on devait pouvoir faire un peu mieux en matière de réduction des pollutions et d'activité locale. Et du coup, ça marche et ça crée des choses très chouettes. Ils sont là, par exemple, en train de récupérer un ancien métier à tisser la soie qui ne sert plus. Ils l'ont récupéré, ils sont en train de le bricoler pour pouvoir faire des tissages de particuliers de toiles d'énime qui ne sont pas faites aujourd'hui par aucun des fabricants en Europe, par exemple. Voilà, donc ils développent tout un tas de choses avec un souci de l'éthique, de la proximité et du circuit court qui est, à mon sens, particulièrement remarquable. Donc je voulais là aussi voilà, leur faire un clin d'œil et en même temps les faire connaître. Pas qu'ils en aient vraiment besoin en termes commerciaux, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont plutôt à gérer des listes d'attente pour leurs produits, parce qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment par rapport à la demande, mais aussi pour donner ces touches d'espoir aux auditeurs de Radio Diwa et montrer que y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui font des choses qui vont dans le bon sens, et que si à un moment donné... côté institutionnel et côté politique, on a du mal à faire bouger les choses. Heureusement, sur le terrain, il y a tout un fourmillement d'activités, d'alternatives, de radicalités concrètes, et que c'est aussi par là que ça va passer.
L'usine vivante, par exemple, aussi, pour le reciter, sur des démarches de coworking, voilà quelque chose qui fonctionne de plus en plus. Hein, travail chez soi, on se déplace moins, ou alors on travaille tous ensemble dans les mêmes bureaux. Ça, c'est quelque chose qui prend très très bien, et dans le Diwa aussi. Et pour finir, petite fête, événement, sous la forêt et les oiseaux, une proposition à la forêt dessous, avec le Transexpress. C'est cela,
oui, la gare à coulisses, le Transexpress, beaucoup de compagnies locales. C'est deux journées qui vont avoir lieu ce week-end, les 1er et 2 octobre, dans la forêt de Sous, pour aller à la rencontre des oiseaux. Donc il y aura des animations pour les enfants, des concerts, des ateliers de découverte. C'est une belle initiative, et c'est aussi une initiative que je voulais mettre en avant aujourd'hui, parce que on n'a plus que jamais besoin, je crois, dans ce monde, de regarder autour de soi, de prendre le temps d'être un petit peu contemplatif aussi de temps en temps, et d'aller choper le beau là où il est. Ce sera d'ailleurs aussi le sujet de ma chronique de rentrée sur Reporter cette semaine. Parce que on peut pas juste s'abreuver de mauvaises nouvelles et de catastrophes, et puis que si on veut surtout tenir la distance avec toutes les luttes à mener et toutes les mauvaises nouvelles qui tombent, il faut aussi savoir de temps en temps s'arrêter et regarder le ciel et écouter les oiseaux. Je crois que c'est important, c'est pas juste une question de bobo écolo, c'est quasiment une question de survie humaine parfois. Et donc moi personnellement, je prendrais une journée pour aller prendre un petit peu de recul dans la forêt dessous et contempler le monde d'en haut avec les oiseaux ce week-end.
Une pause pour mieux avancer. Merci Corinne Morel-Darleux pour ce retour sur la session du 22 septembre et autres réjouissances. On vous retrouve sur Reporter, ça vient d'être dit, et aussi sur votre blog dont on parle souvent, Les Petits Poissons Rouges. C'est quand la prochaine ?
Prochaine session, elle aura lieu les 17 et 18 novembre. Donc dans quelques temps, ça fait une longue période sans session plénière, mais celle-ci sera importante puisqu'il y est annoncé une délibération sur la question de l'agriculture.
Ah, et puis tout ce qu'on vient de parler qui devrait normalement arriver, quoi. Merci encore une fois, et à la prochaine alors.
Merci à vous.
Interview. Hey, the bird.
L'interview du jour.